les conférences de la grenouille. À écouter sur le 88.8.
Et ce matin, nous vous invitons à l'écoute de l'apéroscience de la Méditerranée du 12 janvier, comme si vous y étiez.
Je suis Cécile Bitoun, je travaille à Irstea. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue à la Villa Méditerranée pour notre troisième apéroscience consacrée ce soir à la gestion de l'eau et des solutions pour l'économiser. Cette soirée est proposée par RCA, l'IRD et la Villa M dans le cadre du programme Citoyenneté méditerranéenne de la région PACA. Le sujet donc de l'apéroscience de ce soir donc s'appelle « Si l'eau m'était comptée », et vous comprendrez pourquoi. Ce thème a été proposé par IRSTEA. Donc, IRSTEA est un institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, donc en recherche environnementale, pour synthétiser. Parce que donc, la recherche environnementale de notre institut traite notamment de la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau. Donc ce soir, IRSTEA est représenté par Marielle Monginoul, que vous verrez tout à l'heure, venue tout droit de Montpellier, qui est un des neuf centres régionaux où nous sommes implantés. Et on n'est pas très loin aussi, puisqu'on a aussi un site à Aix-en-Provence. Les apérosciences, donc, ont le souhait de faire un point et débattre globalement sur des problématiques de l'environnement et de sociétés de la Méditerranée. Donc, chaque rencontre est dédiée à un thème et réunit des chercheurs du pourtour méditerranéen, ainsi que des acteurs de la société civile ou industrielle, donc selon les thématiques. Donc, les rencontres sont animées chaque fois par des étudiants de l'université d'Aix-Marseille, de filières scientifiques, de journalisme ou d'enseignement, et qui préparent le débat chaque fois avec Thierry Noir, qui est journaliste et enseignant.
Bienvenue dans cette merveilleuse bâtisse qu'est la Villa de la Méditerranée. Merci de vous être déplacés un soir d'hiver. Trois étudiants du master médiation en environnement de l'université d'Aix-Marseille vont successivement interroger nos trois intervenants, nos trois invités, et ensuite ce sera à vous de poser toutes les questions. Le titre de notre rencontre de soir, c'est « Si l'eau était comptée », comptée C-O-M-P-T-E, bien sûr, hein. Mais dans un premier temps, on va vous raconter l'eau, on va vous raconter l'eau en Provence, avec Monsieur Dominique Roux, qui est délégué à la coordination de l'eau chez EDF. Alors EDF, ça peut vous paraître surprenant à premier abord, mais vous allez voir que l'eau en Provence, bah, c'est pas simplement de l'eau pour boire ou de l'eau pour arroser les champs, mais qu'il y a aussi une grande partie qui est réservée, ou qui sert, on va dire, à la plaisance, et une partie qui nous est fort utile dans notre région où nous avons peu de sources d'énergie pour fabriquer de l'électricité. On verra ensuite M. Mourad Benmansour, qui est directeur de la statistique et de la planification à la Société nationale SunEd. La SunEd est une société assez particulière parce qu'elle a le monopole, on peut dire, le monopole ou le quasi-monopole de la distribution de l'eau en Tunisie. Et on va voir comment ça se passe, comment se passe la tarification, hein, il y a une politique de tarification très originale en Tunisie. Ensuite, Madame Marielle Monginoul, qui est économiste à l'IRSEA, c'est un organisme public qu'on vient de vous présenter. Elle va essayer de nous aider à comprendre de nous disséquer une facture d'eau, savoir qu'est-ce qu'on paye, pourquoi. Et vous allez voir que c'est pas gagné parce que le sujet est un petit peu compliqué. Donc la parole est tout de suite à Monsieur Dominique Roux, que je prie de bien vouloir s'approcher de la tribune et qui va être interrogé par Mathilde Valeuf.
Bonjour à tous d'abord.
Alors bonjour à tous, merci Monsieur Roux de répondre à nos questions. Alors d'abord tout simplement, quand on ouvre son robinet d'eau, on peut se demander dans cette province si pauvre en rivière, d'où est-ce que l'eau vient ? Quel a été son cheminement ?
Alors l'eau que nous buvons à Marseille, c'est l'eau de la Durance. Et l'eau de la Durance, elle vient de nos montagnes. En fait, l'eau, il faut aller la chercher relativement loin, finalement, hein, puisque c'est dans les Alpes du Sud. On connaît tous la région, j'espère la plupart d'entre nous ici. Donc les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, qui sont notre château d'eau. Et la chance que nous avons dans cette région quand même assez exceptionnelle et que les Provençaux ont su aménager, hein, c'est qu'on a su aller chercher cette eau pour l'amener dans des secteurs beaucoup plus déficitaires, beaucoup plus arides, en gros pour amener l'eau en Provence. Et donc, on a su bâtir un ensemble, un système hydraulique très maillé, extrêmement important, qui a permis de faire ce lien entre le château d'eau. Alors là, sur ce château d'eau, il faut quand même en donner quelques caractéristiques très vite. On a des sommets importants. On monte jusqu'à 4000 mètres avec la barre des écrins. On a des glaciers. On a de la neige. Pas toujours autant qu'on voudrait chaque année, mais on a de la neige. Et on a donc un régime des cours d'eau qui est nival. Donc on peut avoir stocké l'eau sous forme de neige. Mais on a aussi de la pluie. Et puis plus on se rapproche de Laval, plus on rapproche de notre région, et bien plus on est sur un régime méditerranéen. Donc avec des assecs, avec un régime hydrologique où il y a moins d'eau. Et donc il va falloir pouvoir faire le lien entre des zones de production d'eau assez importantes et puis des zones beaucoup plus arides. Donc ça, on va trouver ça sur le bassin de la Durance. Et puis un des grands affluents dont on va parler de la Durance, c'est le Verdon. Et la Durance et le Verdon se rejoignent à Cadarache pour alimenter tout le Val de Durance, partie de la vallée du Verdon, également les Bouches du Rhône, le Vaucluse, donc ce qu'on appelle la basse Durance au sens large. Puis à partir des eaux du Verdon et grâce aux aménagements du canal de Provence, eh bien on va aussi alimenter toute la côte varoise. Voilà donc l'eau d'où elle vient.
Alors de même, quand on se promène notamment dans la vallée du Verdon, on peut observer de nombreux ouvrages, des barrages hydrauliques, des canaux. Pouvez-vous un petit peu nous décrire les grands ouvrages de notre région ?
Alors pour aller chercher l'eau, il a fallu effectivement construire des grands ouvrages. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas du XXe siècle non plus. Les hommes dans la région ont démarré historiquement beaucoup plus tôt. Simplement au départ, ils allaient chercher l'eau vraiment à proximité de la rivière. Donc par exemple dans la région de Cavaillon, le canal Saint-Julien. Après au XVIe siècle, c'est Adam de Craponne du côté de Salon qui a eu l'idée de dériver les eaux de la Durance sur la Croix en créant déjà un grand canal. Donc c'était une grande première extrêmement importante. Et puis ensuite, au XIXe siècle, avec le canal de Marseille, et on peut tous aller au Palais Longchamp admirer l'arrivée de l'eau à Marseille, c'est extrêmement important et il faut s'émerveiller de la fête qui a été faite à l'eau arrivant à Marseille. Et puis au XIXe siècle, tous les canaux agricoles très importants se sont développés le long de la Durance, hein, la deuxième moitié du XIXe. Donc sur le Val de Durance, mais aussi en basse Durance et jusque du côté de Carpentras, etc. Donc très fort développement, sauf que cette eau n'était pas sécurisée. Et donc ça posait un problème majeur, parce que construire des prises d'eau dans une rivière qui, l'été, est très sèche, grands étiages, pas beaucoup d'eau, donc pas assez d'eau pour la population, pour l'agriculture, etc., même pour des problèmes sanitaires, c'était un problème. Et puis il y avait des très grandes crues. Donc les prises d'eau qui étaient construites en rivière, elles étaient détruites par les crues. Donc il fallait recommencer. Donc pas d'activité économique durable derrière. C'était vraiment un gros problème. Et donc c'est posé la question de comment on sécurise. Et on avait depuis longtemps, déjà à la fin du 19e, début du 20e, repéré le verrou de Serre-Ponçon, hein, dans la vallée de la Durance, du côté de Gap, si on va dire simplement. Et il a fallu attendre, disons, les développements technologiques pour pouvoir construire le barrage de Serre-Ponçon pour disposer d'un très grand réservoir. C'est le premier grand réservoir en France. Donc c'est 1,2 milliard de mètres cubes qui se trouve derrière ce grand réservoir et on peut utiliser 1 milliard de mètres cubes là-dedans. Voilà. Et donc à partir de cet aménagement, compte tenu des enjeux que nous avions à ce moment-là, ces enjeux c'était à la fois après-guerre, reconstruire le pays, donc on a besoin de beaucoup d'énergie, donc l'opportunité de l'hydroélectricité, et puis aussi on avait besoin d'alimentation en eau. Voilà. Donc on a construit cet aménagement avec un grand barrage, des canaux, des centrales hydroélectriques sur le canal, d'autres petits barrages qui captent toute la ressource en eau, et les prises agricoles et pour l'eau potable ont été reconstruites dans le canal. C'est-à-dire qu'on a sorti ces prises d'eau qui étaient dans la rivière, on a construit ces prises d'eau dans le canal, et de ce fait, on a sécurisé l'alimentation en eau. Et en plus, on a créé une réserve en eau dans Serre-Ponçon qui permet d'assurer une continuité d'alimentation en eau, même quand les débits naturels sont insuffisants. On a fait à peu près la même chose sur le Verdon, mais sur une rivière plus étroite. Donc là, ce sont des grands barrages enchaînés, il y en a deux. Ce qu'on appelle l'eau Verdon. Et puis ensuite, plus tard, on a construit les aménagements de l'aménagement de, alors sur le Haut-Verdon, ça s'appelle c'est Castillon et Chaudanne, et sur la partie aval, c'est Sainte-Croix, Quinçon et Gréou, donc les barrages qui se succèdent, grand réservoir également, à partir desquels se trouve la prise d'eau principale du canal de Provence. Donc voilà comment c'est organisé. Le canal de la Durance, canal EDF, poursuit le lit de la Durance et se dirige ensuite vers l'étang de Berre, donc au niveau de la mer, rejoint le niveau de la mer, ce qui fait qu'au total, on a un grand ensemble de centrales hydroélectriques qui sont capables d'apporter aussi, donc de faire de l'alimentation en eau, sur un dénivelé total de 800 mètres, hein, puisque le barrage de Serponçon était une côte qui est presque à 800 mètres d'altitude. Voilà, en gros, comment ça fonctionne, tout ça fonctionnant ensemble et de façon coordonnée.
Alors, vous avez commencé à évoquer les différents usages de l'eau pour l'agriculture, de l'eau potable, de l'eau pour l'électricité. Toutes ces utilisations peuvent laisser penser qu'il peut y avoir des conflits d'usage de l'eau. Oui. Et actuellement, les changements climatiques aussi peuvent représenter une tension sur la ressource. Et à ce sujet, en préparant cet entretien, vous avez évoqué une étude réalisée notamment avec l'IRCEA. Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Oui. Alors, au fil des années, pour faire cette transition, hein, entre ce multi-usage, vous avez entendu, donc hydroélectricité, eau potable, eau agricole, eau industrielle, s'est développé deux autres composantes fortes dont il faut tenir compte dans le futur, dont on tient déjà compte. C'est le développement de l'activité touristique autour des plans d'eau. Hein, donc, ça veut dire qu'il faut remplir les barrages pour que l'été, il y ait effectivement une côte qui permette le développement des activités nautiques, donc à Serponçon, à Sainte-Croix, à Castillon. Donc c'est quelque chose qui n'était pas prévu à l'origine, mais qu'on a introduit dans la gestion actuellement. Et puis un deuxième point important, c'est qu'il faut suffisamment d'eau dans la rivière pour que les milieux aquatiques fonctionnent et qu'ils puissent continuer de nous rendre les services hein, qui nous permettent d'aller prélever de l'eau dans les rivières. Donc tout ça, c'est aussi une quantité d'eau qu'il faut laisser en rivière. Et récemment, donc en début 2014, on a relevé les débits réservés en rivière et bien sûr, ça a un impact sur le multi-usage de l'eau. Alors ça, c'est aujourd'hui. Je voudrais juste dire que cet ensemble-là a répondu à ces objectifs et qu'en gros, les réserves en eau sur la Durance à Serponçon, la réserve de Serponçon, elle est utilisée pratiquement sans difficulté 8 à 9 années sur 10. Et il y a à peu près, depuis l'origine, qu'une année sur 10 où elle est épuisée, où elle est en risque vraiment d'épuisement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 200 millions de mètres cubes qui sont consommés parce que les débits naturels ne sont pas suffisants. Sur le Verdon, les prélèvements sont encore relativement plus limités et les réserves du Verdon, qui sont très importantes, 250 millions de mètres cubes, sont encore loin d'être sollicitées. Donc on a des marges très importantes. Donc la question qui se pose, c'est effectivement demain, dans le cadre d'un contexte de changement climatique, mais aussi dans le cadre d'un contexte de changement socio-économique des territoires. Qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, on s'est posé la question donc avec l'IRSTEA et avec un grand nombre d'acteurs, dont la Société du Canal de Provence, que je peux aussi citer, le CNRS et d'autres grandes équipes scientifiques. Au total, c'est une cinquantaine de personnes hein, qui ont bossé sur le projet qui a duré trois ans et demi. L'idée, c'est la suivante. C'est de dire comment, sous effet du changement climatique, la ressource en eau va-t-elle évoluer à l'horizon 2050 ? Comment la demande en eau va-t-elle évoluer, là aussi sous effet du changement climatique, à l'horizon 2050, mais pas uniquement sous l'effet d'une augmentation de la température, mais aussi en fonction de l'évolution de nos territoires, c'est-à-dire la population, les surfaces irriguées, l'activité économique, industrielle, etc. Donc on a essayé de bâtir des scénarios de prospective pour mettre d'un côté la ressource en eau, c'est-à-dire l'offre en eau, qu'est-ce qui est disponible, hein. D'autre côté, la demande en eau, et puis de se dire avec nos grands réservoirs, comment on va pouvoir gérer tout ça à cet horizon. Puis on a comparé la situation actuelle avec la situation future. Et là, on a des résultats qui sont très intéressants et qui sont un peu décapants. Il y a un résultat qui surprend personne. Donc un peu moins de neige, une fusion nivale de la neige plus précoce, donc plus de difficultés pour remplir les barrages, On s'attend un peu à ça. Et l'été, des débits plus faibles, un peu plus faibles. Hein, donc c'est l'été que les débits sont les plus faibles en règle générale. Et donc une utilisation des réserves plus importante. Et donc on voit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on économise l'eau. Hein, il faut qu'on trouve les voies pour économiser entre 2 et 400 millions de mètres cubes sur l'ensemble du Rance-Verdon. Voilà. Faute de quoi, on a des risques de conflits d'usage. Et donc, pour prévenir ces conflits, eh bien, la meilleure solution, c'est de se mettre autour de la table. C'est de mesurer les enjeux de chacun et de trouver des mécanismes où chacun peut agir sur des leviers qui permettent de dégager des marges pour que demain, on voit comment les choses évoluent et on sache prévenir et les conflits importants et les situations de crise dans lesquelles il faut essayer d'éviter d'aller. Donc aujourd'hui, on s'organise autour de ça. Hein. À l'échelle régionale et à l'échelle du bassin de la Durance, à travers ce qu'on appelle un schéma d'aménagement de gestion des eaux qui est en cours de construction.
Merci, Monsieur Roux. Je crois effectivement qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de questions qui vont vous être posées tout à l'heure. Là, je vais vous proposer de céder la place à Monsieur Mourad Benmansour et à Diana Costa.
Alors, Monsieur Mourad Benmansour, bonsoir. Vous êtes donc, comme on vient de le dire, directeur des statistiques et de la planification auprès de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, la SONED, qui a le monopole depuis sa création en 1968 de la production et de la distribution de l'eau potable en Tunisie. Pouvez-vous nous expliciter le contexte historique et les raisons de la création de cette société et de l'attribution de ce monopole ?
En fait, avant la SONED, il a été un régie qui s'occupe à la fois de la distribution des eaux, de l'électricité, de l'eau pluviale, etc. Mais par la suite, par souci de développement du secteur de l'eau potable, dans le cadre de la politique tunisienne de l'éducation, de développer l'éducation, la santé, etc. Donc, on préférait développer ce secteur-là et ça a été créé la SONED en 1968 pour développer le secteur. Chose faite, on atteint déjà un taux de dessert de 100% dans le milieu urbain à partir des débuts des années 80. Et on atteint maintenant 95% dans le milieu rural. Bon, concernant l'organisation du secteur déjà, le secteur de l'eau en général, c'est le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche qui s'occupe du secteur de l'eau. Pour le côté irrigation, c'est la direction de génie rural. Et pour le côté ressources en eau en elle-même, c'est la direction de ressources hydrauliques. On a aussi le bureau de planification. Et pour l'eau potable, c'est la SONED. Pour l'assainissement, c'est l'ONAS, c'est-à-dire l'Office national de l'assainissement lui-même, qui a été créé en 1974 pour développer aussi le secteur de l'assainissement. Monsieur Canou ici, il connaît très bien, il est ex-ONAS, je crois. Donc le secteur est bien développé aussi au niveau par rapport à des pays similaires, côté assainissement urbain. Voilà l'organisation du secteur. Mais la SONED détient le monopole de distribution de l'eau en Tunisie, surtout au milieu urbain. Au milieu rural, nous sommes pratiquement à 51% de taux de dessert. Il y a 44% assuré par la direction de génie rural pour le rural dispersé, c'est-à-dire où la SONED s'occupe des agglomérations rurales, et c'est-à-dire la direction du génie rural des zones dispersées.
Okay. Le prix de l'eau imposé par le gouvernement est inférieur au prix de revient, puisqu'elle est vendue 0,7 dinars le mètre cube contre un prix de revient à 0,82 dinars. Pourquoi cette société travaille-t-elle à perte ? C'est-à-dire pourquoi le gouvernement n'augmente-t-il pas la tarification de l'eau auprès de ses usagers ? Et peut-il se permettre d'apporter une certaine forme de contribution pour compenser ce choix imposant cette lacune budgétaire qui ne remettrait pas en cause votre indépendance financière ?
En fait, c'est pas exactement comme ça, mais bon, par décret, par la loi de la création de la SONED et par le code des eaux et par le règlement des abonnements à l'eau, et puisque la SONED est une entreprise publique, où elle est, le seul propriétaire, c'est l'État. Et on n'a pas de bénéfices à distribuer. Non, le seul actionnaire, c'est l'État. Donc, on n'a pas un but lucratif, mais plutôt, par notre tarification, on souhaite distribuer l'eau à tout le monde, assurer l'eau à tout le monde. Donc, on a un objectif déjà social. On a un objectif économique. L'objectif économique, c'est rationaliser l'utilisation de l'eau. C'est l'économie d'eau. C'est épargner cette ressource qui est très rare. Si vous voulez, je parlais tout à l'heure de la rareté de la ressource en eau en Tunisie. Mais c'est une ressource très rare qu'il faut économiser pour les générations futures. Donc, c'est un objectif économique et c'est un objectif d'équilibre financier pour que la SONET, pour le seul objectif, c'est pour assurer la sécurité de l'alimentation et la continuité de service. Donc, l'équilibre financier, c'est tout juste pour pouvoir continuer notre c'est-à-dire mission de desservir toute la population en eau potable. En tout cas, le service il est assuré actuellement 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et les Tunisiens ont l'habitude d'avoir l'eau au robinet toute la journée. Il n'y a pas de rationalisation, de rationnement, c'est-à-dire dans l'eau potable. Pour la question tarifaire, on essaie de se rattraper sur le coût. C'est vrai que le coût, c'est-à-dire le taux de couverture des coûts par nos tarifs, il est actuellement de 85 à 88%. Mais on a d'autres activités, on vend les branchements, on vend les extensions qui sont facturées à l'abonné et on peut atteindre un petit peu l'équilibre. Nous sommes maintenant, depuis 2008, en déséquilibre, mais on a un programme avec l'État pour se rattraper et on a en plus une étude en cours sur l'équilibre financier de la SONET, mais c'est toujours dans un but d'avoir notre équilibre, dans un souci d'assurer la sécurisation de l'eau potable. Ce n'est pas dans un but lucratif. On doit avoir l'équilibre juste pour pouvoir continuer notre mission. Si vous voulez, je parle aussi de notre tarification progressive, l'historique.
J'allais y venir avec la question suivante, justement, puisque la politique de tarification en Tunisie vise clairement à faire économiser au maximum l'eau par ses usagers, puisque cette tarification est découpée en 7 tranches en fonction de la consommation. Donc plus on consomme, plus le prix de l'eau est élevé. D'autre part, les comptes financiers de la SONED étant en difficulté, l'entretien du réseau ne semble plus à la hauteur et le taux de perte est en augmentation puisqu'il atteignait 16% en 2006 contre 22% en 2015. Pensez-vous que cette politique de tarification naisse d'une préoccupation plutôt sociale ou écologique, c'est-à-dire qui se soucie avant tout de la nécessité de la préservation de la ressource en eau ?
Ouais, ce sont donc plusieurs questions en même temps. Bon. Comme j'ai dit, l'objectif de notre tarification progressive, c'est plutôt trois objectifs. Je peux le résumer en trois objectifs. L'objectif social, c'est donner à une population couche sociale, socio-économiquement modeste, ses besoins à bas tarif. D'accord. Donc, je me permets de dire à 155 millimes le mètre cube par rapport à la tranche supérieure, la 7e tranche, c'est 1 dinar 180. C'est un rapport de 1 à 6, tout simplement. Donc, par la suite, on cherche, comme vous dites, si on passe d'une tranche à une autre, les tranches sont réparties 0,20 mètres cubes, 21,40, 41,70, 71,100, 100, 150, 151,500, 501 et plus. Donc, cette tranche, où si on passe d'une tranche à une autre, on voit que la facture augmente considérablement. Donc, ce qui amène la population où le ménage a se stabilisé dans une tranche bien déterminée qui relativement à ses besoins, je me permets de dire. Donc, de point de vue économie d'eau, cette tarification nous a permis vraiment de faire cela. Par contre, l'équilibre financier n'est pas assuré puisque notre tarification est stagnée entre l'année 2005 et 2010 pour des raisons sociopolitiques. Donc, on n'a pas pu augmenter nos tarifs. Donc, ça pèse lourd maintenant puisque la chose qu'on ne peut pas faire si on ne couvre pas ses coûts, c'est de renouveler le réseau. Donc, on a un réseau qui, quand même, on a 50 000 km de réseau qu'il faut renouveler petit à petit. bon, sachant que on planifie avec l'État nos investissements, donc on est propriétaire de l'État, l'État nous aide à faire des investissements. Nous avons devant nous 2,4 millions de dinars, c'est-à-dire à peu près 1,1 milliard d'euros à investir d'ici 2021 dans des grands projets tels que le dessalement, tels que le transfert, tels que des barrages réservés pour l'eau potable pour assurer la sécurisation de l'alimentation en eau potable de toute la Tunisie. Si je me permets de décrire un petit peu, l'eau existe au nord et la consommation ou les centres de consommation sont concentrés à l'est, dans le littoral. Donc on a des transferts d'eau de 200 km parfois et on a des stations de dessalement dans le sud où la salinité est importante et où la ressource n'existe pas même.
Voilà. Justement, j'allais y venir. En Tunisie, afin de pallier le manque de cette ressource précieuse, des usines de dessalement, comme vous venez de le dire, de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre, ont déjà été installées et produisent à l'heure actuelle près de 4% des ressources totales du pays. Ce dispositif proposant un nouveau mode d'approvisionnement est-il une solution satisfaisante et plébiscitée, donc amenée à voir son expansion dans le futur ?
Vous posez cette question comme si on a le choix. On n'a pas le choix. On a 1600 km de littoral. L'eau de mer, je crois, ne se puise jamais. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas de l'eau douce. La dotation en Tunisie, la dotation par habitant, c'est 450 mètres cubes par habitant par an. La France, c'est 5000. D'accord. Donc, il ne faut pas s'étonner. C'est moins que le 1/10 par rapport à la France. Nous sommes un pays semi-aride. On est habitué à ce climat-là. Même si on parle de changement climatique, il ne va pas changer grand-chose par rapport à nous parce qu'on s'est habitué à ça. On a deux programmes pour ce changement climatique. On essaye d'investir encore plus, investissement, pas argent, mais politique plutôt. On s'organise pour que ça avance les choses et on assure notre sécurité hydraulique. Et déjà, bon, le taux de mobilité, par exemple, de la ressource, elle est de 95%. D'accord. Donc, dans le sud, on n'a pas le choix. On n'a pas de la ressource. Donc, on doit aller au dessalement de l'eau de mer. Déjà, la première station sera prête en 2017. Donc, c'est à l'île de Djerba. Je crois que quelques-uns connaissent cette île. Donc, elle est touristique. Donc, c'est 40% de la consommation de cette île, elle est touristique. Bon. Heureusement que notre tarification pour le tourisme, c'est le plus fort. Donc, on essaie de considérer toutes ces choses-là dans notre politique tarifaire.
Merci bien, M. Benmansour. Je crois que j'ai vu, j'ai noté les chiffres. Vous disiez 450 mètres cubes par an et par habitant de disponibles en Tunisie et 5000.
En France.
5000 en France. Je pense que sans doute il y aura beaucoup de questions tout à l'heure quand
je crois que j'ai pas tort. En France, c'est 5000, c'est le plan blanc qui dit ça. En tout cas, nous serons juste à 370 mètres cubes par habitant par an en 2030.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on va avoir l'occasion de poser les questions là tout à l'heure. Là, maintenant, j'appelle à la tribune Madame Marielle Monginoul, et donc qui va être interrogée par Julie Pifaretti. Julie, c'est à vous.
Rebonsoir. Alors, il y a tout d'abord une question que je me pose et que je suis peut-être pas la seule à me poser. C'est tout simplement, est-ce que la facture d'eau que je paie correspond uniquement à l'eau que je consomme ? Et si ce n'est pas le cas, alors à quoi correspond réellement cette facture ?
Alors, la facture d'eau englobe un certain nombre de services autour d'elle. Donc il y a bien l'eau qu'on consomme qui est dedans et le service qui est d'amener l'eau jusqu'à chez nous. Il y a aussi tout ce qui est assainissement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on consomme de l'eau, on va la rejeter ensuite usée et l'eau traitée va être payée à un certain prix. Donc il y a tout ça qui est englobé dans la facture d'eau. Et c'est pourquoi, souvent, la facture d'eau, on a une partie abonnement et une partie proportionnelle au mètre cube d'eau consommé. parce que ça permet de payer des services qui sont rendus et qui sont plutôt de nature qui a trait à des coûts fixes, c'est-à-dire que une partie de la facture, quel que soit l'abonné, quelle que soit la quantité d'eau qu'il consomme, va coûter beaucoup d'argent pour lui amener l'eau et pour la traiter. Voilà.
Alors justement, je voudrais revenir sur cette notion de part fixe. Lorsqu'on a préparé cet entretien, vous avez estimé aberrant le fait que la part fixe ne puisse pas dépasser 30% du montant total d'une facture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, la législation française, depuis 2006, demande à ce que la part fixe soit limitée. La raison, c'était de se dire que quand on achète un produit, un yaourt, on n'a pas à payer une part abonnement pour acheter le yaourt. Et donc, on ne voit pas pourquoi on aurait à payer un abonnement pour acheter de l'eau de la même manière. En fait, la différence entre les deux, c'est que notamment, il y a tout un réseau de distribution qui amène l'eau de la source qui la purifie et puis qui l'amène jusqu'à notre robinet. Tout ce réseau, il existe et il existera même si on consomme pas ou peu de ressources. D'où l'idée qu'il faut que les individus, même s'ils consomment peu, contribuent aux coûts qui sont apportés. Dans certains cas, ne pas avoir de part fixe n'est pas très grave, notamment par exemple dans les grandes villes comme Marseille, ce coût va être englobé. Par contre, quand vous êtes par exemple juste un habitant qui habite à 3 km du village, c'est très coûteux pour lui amener l'eau. Et avoir une part fixe qui représente uniquement le coût d'un mètre cube, c'est ridicule, notamment si par exemple on a en face à nous une résidence secondaire qui n'est pas utilisée souvent, mais qui va avoir apporté beaucoup de coûts pour lui amener de l'eau. Donc voilà, c'était pour ça que je disais que c'était un peu aberrant de fixer ce montant-là. Il faut savoir que dans certains cas, notamment justement les communes touristiques, il y a des dérogations. Donc, l'aberration, voilà.
Alors justement, vous parlez du réseau d'eau. Donc ça m'amène un petit peu à vous demander, si je me trouve dans une commune où justement la facture d'eau, elle a un prix avantageux, est-ce que ça veut dire que le réseau d'eau de la commune est peu entretenu et que dans le futur, du coup, il va se dégrader et ça va se répercuter sur le prix de ma facture d'eau ?
Alors, il est vrai que souvent, dans justement tout ce qui est que choisir, 60 millions de consommateurs disent qu'il faut avoir un prix de l'eau qui est très faible. Et plus c'est faible, mieux c'est. C'est pas forcément le cas. Alors, je veux pas dire que chaque fois qu'il y a un prix de l'eau qui est faible, on a un service qui est dégradé. C'est comme les low cost, hein. Faut pas non plus penser que tout est comme ça. Mais il faut bien voir que souvent, dans les communes où les prix de l'eau sont très faibles, on peut avoir un service qui ne sera pas durable sur le long terme. C'est-à-dire que souvent, on va avoir le fait que les investissements pour renouveler le réseau, pour entretenir ce réseau, pour pas qu'il y ait de fuite, va être peut-être un peu moins bien fait si on est sur un prix qui est faible. Et moi, j'avais rencontré au cours de mes entretiens une commune qui se vantait d'avoir un service d'eau avec un prix faible, et le service d'eau en réalité était dégradé, c'est-à-dire qu'elle ne maintenait pas ses installations. Voilà.
Actuellement en France, on ne paie pas la même somme pour une même quantité d'eau consommée en fonction de l'endroit où on se trouve. Alors pourquoi le coût de l'eau varie en France, voire même entre les régions ?
Alors le coût de l'eau varie parce que le service n'est pas forcément le même. La source d'eau que l'on va utiliser n'est pas identique. Vous allez avoir de l'eau de surface, de l'eau souterraine, qui va être plus ou moins difficile à traiter pour la rendre potable. Vous avez toute une infrastructure qui est nécessaire, qui ne va pas être la même dans un endroit isolé ou dans une grande ville. Et tout ça va conduire à des prix de l'eau qui vont être différents. C'est pour ça qu'il y a des prix différents. L'électricité, par exemple, il y a eu une stratégie nationale qui a dit qu'on allait avoir un tarif de l'électricité unique. ça a été une vision, mais on sait très bien qu'à un certain endroit, il va être plus coûteux d'amener de l'eau à cet endroit, enfin, ou l'électricité à cet endroit-là qu'à un autre. La Sonède a fait pareil, hein, ils ont un tarif unique au niveau national, mais on sait très bien que pour alimenter l'île de Djerba, eh ben, ça va être bien plus coûteux que pour alimenter Tunis. Voilà.
Alors, j'ai deux questions complémentaires. Est-ce que les politiques tarifaires en France incitent à la consommation d'eau ? Et à l'inverse, est-ce que les pouvoirs publics ont des politiques incitatives à la modération ?
Alors, les politiques tarifaires en France ont de plus en plus tendance à essayer d'inciter à économiser l'eau. Après, il peut y avoir des effets contradictoires. C'est-à-dire que quand on met en place un tarif de l'eau élevé, les gens qui ont la possibilité vont pouvoir faire des forages, par exemple, donc prélever en nappe et s'extraire du réseau de distribution publique. Et là, ça peut avoir des effets contradictoires, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont un forage, ils payent plus l'eau et ça va leur coûter moins cher, donc ils auront tendance à consommer plus d'eau. Donc on a ce genre de choses. Il est vrai que de plus en plus, avec les questions de changement climatique, etc., les politiques ont tendance à vouloir à ce qu'on économise de l'eau. On verra ce que ça donne dans l'avenir.
Et enfin, selon vous, quel est le meilleur système de gestion de l'eau et de ses réseaux ? Alors, il y a soit la régie directe, c'est-à-dire la commune gère elle-même son eau et ses réseaux, ou alors la délégation de services publics à un privé, par exemple, comme Veolia.
Alors, pour moi, qui suis chercheur en plus, je n'ai pas d'opinion du tout arrêtée sur l'un ou l'autre choix. Même si je suis chercheur public, j'aurais tendance à aller vers le public, mais ça, c'est pas la question. L'idée, c'est de se dire que les uns et les autres ont des avantages et des inconvénients. Le réseau, enfin, une régie va avoir une autonomie, n'aura pas comme des objectifs financiers, de profit, contrairement à une entreprise en délégation. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un coût moindre et un prix moindre de l'eau. Par contre, une entreprise privée va aussi avoir une compétence qui va, au final, pouvoir réduire certains coûts. On a des économies d'échelle. Si bien que l'un dans l'autre, il peut y avoir des situations où c'est plutôt favorable d'avoir un opérateur privé, notamment si c'est une petite régie, par exemple, qui prend en charge le dispositif. Il faut qu'elle ait tellement de compétences pour résoudre le problème de l'eau et de l'accès à l'eau que ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, je n'ai pas d'opinion à arrêter sur la question. Voilà.
Merci beaucoup. Je propose maintenant à Monsieur Roux et à Monsieur Benmansour de venir à la tribune. Et puis, maintenant, cher public, c'est à vous. La première question, monsieur.
Merci. Achmed Kinou, je suis un citoyen marseillais. Et ma question est pour Monsieur Roux, d'EDF. Donc, on a bien compris cette étude, cette prospective qui a été faite. Donc sur des scénarios, j'espère pas, qui mèneront à ce qu'on n'ait plus d'eau potable à Marseille, on ne sait pas. Mais ma question, est-ce qu'il y aurait une autorité ou, en ce qui concerne ces conflits d'usage qui donc, pourrait, dans ces scénarios que vous avez projetés, nous rassurer que l'eau coulera toujours dans le robinet à Marseille ?
D'autant que lorsque nous avons préparé cet entretien, hein, vous ne l'avez pas répété ici, mais lorsque nous l'avons préparé, vous m'avez dit, si on ne fait rien, on va dans le mur. Alors j'aimerais bien que vous nous disiez qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour, s'il vous plaît, ne pas aller dans le mur.
Voilà. Alors il y a la question de l'autorité, puis il y a la question du mur. Cette étude, ce qu'elle nous a montré, c'est que si on ne fait rien, c'est-à-dire si on a la même demande en eau qu'aujourd'hui, ce qui risque de se passer donc à l'horizon 2050, c'est que la réserve de Serre-Ponçon, les 200 millions de mètres cubes qui sont réservés à l'alimentation en eau et à l'eau potable, hein, alors qu'aujourd'hui cette réserve elle est épuisée à peu près une année sur 10, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'eau, hein. Ça veut dire que les 200 millions sont épuisés. Je reviendrai un peu là-dessus. Le risque de dépassement, donc d'épuisement de cette réserve, pourrait être d'une année sur 4 au lieu d'une année sur 10. Donc ça sera plus fréquent. Et ça sera plus fréquent et plus important en dépassement. Si on ne fait rien, enfin c'est pas si on ne fait rien, c'est si on a la même demande en eau qu'aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il faut agir sur le facteur économie d'eau pour réduire cette situation. Et puis le dépassement. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a plus d'eau dans Serre-Ponçon quand les 200 millions de mètres cubes sont épuisés? Non, il y a toujours de l'eau dans Serre-Ponçon. Ça nous est arrivé en 2007 dans la région. Il y a de l'eau, mais cette eau n'est pas destinée à l'alimentation en eau. Elle est destinée à l'hydroélectricité. Et donc, ce qui est prévu réglementairement, c'est que si effectivement il est possible d'utiliser cette eau pour poursuivre l'alimentation en eau, alors évidemment, l'eau potable est prioritaire, je dis clairement. Hein. Donc, je réponds à Spikenou pour lui dire « Rassure-toi, l'alimentation en eau potable est prioritaire. » Et la loi sur l'eau de 2006 prévoit cette priorité. Donc, évidemment, qu'il y aura cette continuité. Mais pour l'eau agricole, on peut se poser la question. Et pour l'eau touristique, on peut se poser la question. Et pour l'hydroélectricité, donc, le principe, c'est de dire, eh bien, si cette eau ne peut pas être utilisée pour l'hydroélectricité, mais pour un autre usage, il faut que l'autre usage, en gros, paye le coût correspondant, le préjudice économique correspondant. C'est ce qu'on a fait en 2007. Donc ça peut se reproduire. Mais c'est toujours une difficulté quand il faut sortir de l'argent. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette réserve de 200 millions de mètres cubes, et c'est vrai pour les eaux du Verdon, l'accès à l'eau, il est, enfin, jusqu'à la prise d'eau d'EDF, entre guillemets, cet accès à l'eau, il est gratuit. Pourtant, il faut transporter l'eau. Pourquoi il est gratuit? Parce que le ministère de l'Agriculture, dès l'origine de ces aménagements, a payé à EDF, dans un accord, une partie des aménagements, a payé la tranche d'eau, une fois pour toutes. Vous voyez? Et donc, dès lors que cette tranche d'eau est sollicitée au-delà des 200 millions pour la Durance et de 250 millions pour le faire court sur le Verdon, eh bien, on va sur de l'eau à usage hydroélectrique. À ce moment-là, il faut indemniser. Et donc, il faut trouver l'argent pour indemniser. C'est pas simple. Et c'est ça qui est source de conflit, qui peut être source de blocage. Et donc, il faut essayer de ne pas aller dans le mur. Donc, il faut agir sur des leviers pour économiser l'eau. Et donc, par exemple, à l'échelle de la base Durance, c'est-à-dire à l'aval de Cadarache, il y a une structure qui gère tout ça, qui s'appelle la Commission exécutive de la Durance, qui a été créée en 1907 et qui est en charge de gérer la réserve de Serre-Ponçon. Parce qu'avant Serre-Ponçon, il y avait des conflits d'usage extrêmement importants qui se terminaient à coups de fusil. Donc l'État, par une loi en 1907, a créé cette commission. Aujourd'hui, cette commission, elle a la capacité, le pouvoir d'obliger à réduire les prélèvements d'eau. Hein. Alors, il y a une priorité qui est faite pour l'eau potable, hein, toujours là, dans ce système-là. Réduction des prélèvements d'eau. Et la Société des eaux de Marseille s'y conforme dans la mesure de ses possibilités aussi. Hein, mais surtout les irrigants réduisent de façon à maîtriser ces 200 millions de mètres cubes. Mais il y a des efforts qui sont faits, il y a des règles qui ont été établies par cette commission et qui fonctionnent. En 2015, la commission a dicté 10% de réduction au mois de juillet. Vous ne le saviez pas, personne ne le savait, mais ils l'ont fait. Hein, et ils ont bien fait, hein, parce qu'il y avait des risques. Voilà. Donc, il faut continuer de travailler dans ce sens-là, en bonne intelligence, de façon à réduire ces risques de conflit. Et pour ça, il faut qu'ensemble, on trouve des solutions pour... pour inciter aux économies d'eau. Et donc, il faut mobiliser de l'argent, c'est des investissements, et changer des comportements. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. On a quelques années devant nous pour le faire.
Merci. Je crois qu'on a une question, monsieur.
Oui, et je voudrais poser une question donc, à monsieur Roux, et peut-être que ça peut aussi concerner notre collègue de Tunisie. Aujourd'hui, on devrait reconstruire un barrage comme celui de Serre-Ponçon. Pourrait-on le faire? Sachant que parmi les usagers, vous n'avez pas cité finalement les usagers du milieu naturel, hein, que sont notamment les pêcheurs, hein, les poissons, mon voisin.
Les poissons,
dit, mais,
les
poissons, mais également de certaines façons.
Les poissons ont été cités, pas les pêcheurs.
Ces barrages ont quelques impacts tout de même, hein, sur les nappes, bien entendu, mais aussi sur les milieux naturels. Et Donc aussi pour les étudiants qui organisent cette journée, ça pourrait être intéressant qu'ils nous donnent aussi leur point de vue. Quels seraient les efforts de médiation à mettre en œuvre pour réaliser des ouvrages tels que vous les avez décrits ?
Moi, je me pose souvent la question, moi, à titre personnel, mais je pense que c'est un vrai problème de société. Il faut bien voir d'où on vient et ce qu'on a fait. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et franchement, si on ne prend pas conscience de ça, on est passé à côté de quelque chose. Qui aujourd'hui accepterait que dans cette région, alors qu'on a les moyens techniques, on refuserait d'investir dans ces réalisations? Et d'ailleurs, on peut le dire la même chose de tous les canaux qui ont été faits par le passé, y compris au XIXe siècle. On sait que ça a été extrêmement difficile, ça s'est traduit toujours par des faillites. Qui refuserait aujourd'hui de construire Durance-Verdon, le canal de Provence, d'avoir tout ce maillage et d'échapper à cette richesse? Est-ce que vous savez que la richesse produite en chiffre d'affaires par l'accès à l'eau qui est permis par ça avec la sécurisation, c'est entre 2 et 3 milliards d'euros par an, hein, et que le principal bénéficiaire en termes de chiffre d'affaires, c'est l'agriculture. Donc la filière agricole en Provence, elle est liée à l'accès à l'eau qui a été permise par l'ensemble des réseaux, bien sûr Durance-Verdon géré par EDF, mais tout ce qui est aussi à l'aval et qui dessert tous les territoires. Est-ce qu'on accepterait de se priver de ça aujourd'hui alors qu'on a l'accès? On le négocierait autrement, je suis d'accord. Mais je pense que ça serait une erreur de s'en priver. On ne veut pas de désert. Ce serait un peu idiot.
Merci. Monsieur Roux, vous avez une autre question.
Oui, bonsoir. C'était juste pour avoir une question. Voilà, j'habitais, j'avais deux compteurs d'eau, donc un compteur d'eau normale et un compteur pour le jardin. Je voulais savoir comment se fait-il que l'eau était la même. C'était une eau traitée.
Alors ça, c'est une question pour Madame Monginoul, ça, je crois.
Oui, c'est la même. Et d'ailleurs, il y a... Je n'ai pas vu qui c'est qui avait posé la question, en fait. Ouais, d'accord. Donc, c'était la même. En fait, il y a une loi, la dernière loi sur l'eau, d'ailleurs, 2006, généralise cette possibilité-là pour les distributeurs d'eau. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, proposer des doubles compteurs parce qu'il y a un compteur, quand c'est le compteur jardin, qui ne rejette pas l'eau dans le réseau public, il est aberrant que l'on paye la partie assainissement là-dessus, sur cela-là. Donc, on peut avoir un double compteur. La grosse difficulté, et vous l'avez souligné, c'est que c'est la même eau. Donc, l'eau est identique et il y a des petits malins qui vont utiliser cette eau pour l'habitat. Donc, il y a beaucoup de communes qui oublient de proposer ce genre de compteur aux usagers, tout simplement parce qu'après, il faut arriver à les gérer et à gérer ce que moi j'appelle des passagers clandestins. Parce que voilà, j'ai eu des communes comme ça qui...
Je me suis laissé dire que il était interdit de remplir sa piscine avec l'eau de jardin. Mais à Marseille, bien sûr, tout le monde respecte la loi, donc ça ne se produit pas chez nous. Hein. Ça doit être ailleurs. Monsieur Ben Mansour.
Notre vision à ce problème-là, c'est on voit les choses d'un autre côté, puisque notre tarification est progressive. Donc normalement, on vend de l'eau potable. C'est pas pour l'irrigation. Donc, si vous voulez arroser votre jardin ou remplir votre piscine, ça vous coûterait plus cher. Donc, et que le consommateur, mais c'est pour le payeur, c'est dans ce sens-là. Donc, lorsqu'on augmente sa consommation, la facture change totalement.
Merci. Monsieur, vous avez le micro, donc allez-y.
Bonjour. J'ai deux questions en fait. Je m'appelle Thomas David. Je travaille pour un bureau de conseil en économie d'eau. J'ai une question à Monsieur Roux et une question aux trois intervenants. La question à Monsieur Roux, c'est par rapport à l'étude dont vous avez parlé d'adéquation entre la ressource et la demande. Alors ça rejoint un petit peu la question qui a été posée tout à l'heure, mais savoir un peu quelle échéance était donnée pour le chiffre de 400 millions de mètres cubes à économiser, s'il y avait une échéance, et ensuite savoir s'il y avait si vous aviez déjà analysé sur quel type d'utilisateur devait être ciblé en priorité. Si c'était l'agriculture, l'industrie, les usagers particuliers.
C'est sans doute tout azimut. Hein. Il faut taper dans tous les compartiments. Hein. Donc c'est sûr que c'est toujours fondé sur l'amélioration des rendements. Donc ça peut être les rendements de distribution d'eau, ça c'est clair. Donc ça, on a évoqué le sujet tout à l'heure, là on peut revenir dessus, enfin mes collègues là peuvent revenir dessus. Nous, pour notre part, nous travaillons beaucoup avec la profession agricole, puisque dans la région, il y a un procédé donc, d'irrigation qui est l'irrigation gravitaire. Et c'est un procédé qui transporte de l'eau, donc il y a un volume technique qui circule dans les canaux pour avoir une ligne d'eau, une hauteur d'eau dans le canal pour avant que l'eau n'arrive jusqu'à la parcelle. Et en fait, ces systèmes-là, tels qu'ils ont été conçus à l'origine, ne sont pas régulés. Donc si on modifie, on modernise ces canaux, il y a possibilité de faire des gains assez importants avec la régulation. Par exemple, le canal Saint-Julien, qui date du 12e siècle et qui est toujours en service, hein, et qui est très emblématique, ils sont en train de se moderniser et ils vont gagner 15 millions de mètres cubes sur une consommation qui est de l'ordre de 100-110 millions de mètres cubes. Donc c'est considérable et c'est très bien. Donc en gros, avec un projet qui est autour de 3-4 millions d'euros, ils peuvent économiser par ce procédé 15 millions de mètres cubes. Donc nous soutenons, l'Agence de l'eau également et d'autres financeurs, ce type de projet. Ça va dans le bon sens. Hein, voilà. Voilà, donc après, on met en place d'autres mécanismes. Hein, je veux pas monopoliser la parole. Mais à quel horizon? Ben, en gros, il faut se dire que déjà aujourd'hui, c'est intéressant. Parce que quand il y a une année sèche, c'est intéressant que les économies réalisées sont toujours intéressantes. Et plus ça va aller, comme on est sur des systèmes de fréquence de retour plus importants des années sèches, on va dire ça comme ça, hein, pour faire simple, eh bien, plus on aura économisé, mieux on se portera. Et donc, on a sans doute 20 ou 30 ans devant nous pour atteindre l'objectif, bien sûr, mais ça demande des investissements importants. On n'a pas encore, il n'y a pas eu encore de chiffrage de fait à cette échelle, mais ça fait partie des travaux qu'il faudra faire pour voir comment financer, c'est certain.
Je crois que vous aviez une deuxième question
rapidement. En fait, du coup, moi, je travaille justement sur les économies d'eau, notamment dans les collectivités. Et une question, enfin, du coup, je fais appel à votre expertise et expérience, mais savoir notamment quand on travaille avec une régie, c'est assez compliqué. Enfin, vous avez parlé tout à l'heure des régies, c'est assez compliqué de pousser à l'économie d'eau, puisque ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Et savoir si, de vos points de vue à vous trois, il y avait des arguments plus ou moins valables à sortir aux régies pour essayer de justifier les économies d'eau, parce que c'est très compliqué.
Je sens bien, monsieur Ben Mansour, la réponse à votre question.
Bon, je suis neutre ici, donc je suis tunisien, je peux répondre à la place des collègues français, quel que soit. Bon, l'expérience a montré que le privé, le dernier souci, c'est l'économie d'eau. L'économie d'eau, c'est une question nationale. La ressource en eau, c'est national. Si on fait de l'économie d'eau, c'est national. Malheureusement, s'il n'y a pas un très bon contrat qui stipule que le privé doit faire des investissements pour économiser de l'eau, il faut faire un bon contrat avec le privé. Je parle par exemple de l'expérience de nos amis marocains, les DEC, là où l'investisseur, son dernier souci, ce sont la partie investissement dans l'économie d'eau. D'accord. Bon, de notre côté, Soned, par exemple, c'est une entreprise nationale, donc à but non lucratif. Donc, on a un plan d'économie d'eau qui se rapporte au niveau Soned, au niveau abonné. Par exemple, on a instauré l'obligation des audits des systèmes internes pour les gros consommateurs à partir de 5000 mètres cubes par an. Et ils sont audités, ils ont l'obligation de faire un audit de leur système interne d'eau par un expert agréé, comme pour l'électricité, exactement. Donc, pour la Soned, on essaie de gérer la demande avant d'augmenter notre offre, notre capacité de production. Il faut gérer de la demande. Parmi nos outils, par exemple, c'est la tarification progressive, c'est un outil. Et au niveau de notre réseau, on essaie d'avoir un programme de renouvellement de nos conduites. Aussi, on a à la Soned, on a un niveau de comptage qui est à 100%. On n'a pas de compteur collectif. chaque individu, chaque ménage, ça représente un compteur. Donc, chacun connaît sa consommation et on essaie de renouveler aussi ses compteurs pour ne pas sous-compter, etc. Donc, c'est ça. C'est grosso modo, c'est notre orientation. Pour le privé, il faut avoir un bon contrat pour avoir l'économie d'eau. Le dernier souci, c'est l'économie d'eau et il cherche son bénéfice. Voilà, merci.
Merci. Je crois que Mme Monginoul aussi avait une réponse à apporter à cette question.
Alors pour compléter, en fait, c'est simplement qu'il y a un problème d'équilibre budgétaire. Hein, et une régie qui est petite le sentira encore plus qu'un opérateur privé, où il y aura justement, très certainement, en plus, un contrat qui va lui imposer de faire ça. Donc il n'aura pas forcément le choix s'il veut garder son contrat. Dans le cas d'une régie, c'est toujours compliqué. Mais pour un opérateur privé, c'est pareil. C'est se dire, on va se projeter dans un avenir. On a un investissement qui est actuel, qui est fait pour une certaine capacité. Et imaginer, demander aux gens de diminuer la consommation, ça va être pour... donc, il y aura plus de... le coût va être le même, parce qu'il y a beaucoup de coûts fixes dans le domaine de l'eau. Et on divisera par un nombre de mètres cubes qui est moins important. Donc, le coût au mètre cube va être plus important. Donc, il va falloir augmenter le prix de l'eau. Et donc, pour une régie, c'est un cercle un peu vicieux. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup d'appétence à aller là-dessus. Donc, après, c'est imaginer dans l'avenir. Voilà. Souvent, c'est ça, ouais. Ouais.
Merci, Madame Monginoul. Je crois qu'il y a une question ici, puis après une autre là-bas. Allez-y, monsieur.
Oui, bonsoir. Je m'appelle François Brel, je travaille au Canal de Provence, donc je suis un petit peu dans le métier de l'eau. J'ai une question pour Marielle Monginoul. On parle effectivement de diminuer la demande, puisque l'enjeu, c'est effectivement les économies dont parle Dominique Roux. Est-ce à partir de quel niveau on constate ce qu'on appelle une élasticité du tarif de l'eau, c'est-à-dire un impact de l'augmentation du prix sur la consommation. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de 400-450 euros pour une facture d'un ménage annuel. C'est à peu près la même somme d'argent que ce qu'on dépense pour deux abonnements de téléphonie mobile. Donc, c'est pas considérable. Et
Vous payez cher.
Non,
vous payez cher.
Non. Prenez, c'est ça.
Oui,
faites le calcul par an, vous aurez deux téléphones mobiles, ça va vous coûter 400 euros. Donc, c'est pas si cher que ça. À partir de quel moment on constate un impact de l'augmentation du prix de l'eau sur la consommation? Si, indépendamment des économies d'eau qu'on peut faire sur le système, sur la performance technique du système, à quel moment on peut dire que le prix de l'eau a un impact sur la consommation des ménages?
Je vais répondre, puis après je laisserai la parole à Mourad Benonsour qui pourra également répondre. La question est difficile, hein, parce que on constate. Alors, on dit qu'il n'y a pas de sensibilité au prix de l'eau, mais en fait, quand on regarde de manière générique, quand même, quand en France en tout cas, quand le prix de l'eau augmente de 10%, on observe une baisse de la consommation de 2%. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même un peu, d'accord, entre 2 et 3%. Mine de rien, sur l'équilibre budgétaire, ça fait quelque chose. Donc, après, par contre, pour savoir à partir de combien les ménages réagissent plus, là, pour l'instant, je n'ai pas encore les éléments pour le dire réellement. Donc, je préfère pas m'avancer. Par contre, dans le cas de la Tunisie...
Monsieur Ben Mansour a des éléments.
Dans le cas de la Tunisie, on est avantagé puisque notre consommation elle est divisée par tranche et par usage. Donc, soyez sûrs, dans les premières tranches, les différentes études ont montré que, par exemple, 0 à 20 mètres cubes par trimestre, c'est-à-dire à peu près, ça revient à 50 litres jour habitant. Donc, c'est le besoin vital. À cette tranche-là, le prix n'a pas d'importance, l'élasticité n'est pas significative, puisque c'est le besoin vital, il ne peut pas réduire. Par contre, ça peut aller jusqu'à 1,5, élasticité de moins 1,5, dans la tranche supérieure, ça se voit, cela se traduit économiquement. Si on augmente de 10% le prix, la consommation baisse de 15%. Vous voyez, c'est très avantageux. Bon, tout cela commence à fonctionner lorsqu'on est à la vraie valeur de l'eau. Si on est dans première, deuxième, troisième tranche où le prix ne reflète pas la vraie valeur de l'eau, L'élasticité n'est pas très significatif. Pour l'usage domestique dans son ensemble, l'élasticité allait de moins 0,4. C'est-à-dire si on augmente de 10%, la consommation baisse de 4%. Et pour les temps supérieurs, comme j'ai dit, on peut aller jusqu'à 15%. Si on augmente de 10%, la consommation baisse de 15%. C'est l'avantage des tranches. Hein. Et pour l'usage, par exemple, touristique, par exemple, même si il paye le prix le plus fort, l'élasticité elle est insignifiante. Pourquoi ? Parce que ça représente epsilon dans leur charge. L'hôtel, la consommation d'eau, malgré c'est le prix le plus fort, c'est epsilon dans leur charge. Merci.
Merci, M. Benmansour. Je crois qu'on avait une question, là, monsieur.
Oui, j'ai une question. Voilà. On se trouve à l'heure actuelle à vouloir faire des économies d'eau. Et c'est très important, hein, parce qu'on est confronté à ce problème de pénurie. Mais que va-t-on faire, vu que les populations immigrent dans le sud de la France, aux littoraux, et que si on prend un triangle entre ce qui paraît entre Perpignan, Lyon et Nice, on va avoir un tiers de la population française, d'après ce que j'ai entendu dire. Comment on va faire? Est-ce qu'on va limiter les populations? Comment on va faire pour recevoir toutes ces personnes?
Qui se sent, là, Madame Monginoul? Vous êtes l'économiste, c'est à vous de répondre à ça. Même si la question est compliquée, hein, et la réponse n'est pas évidente. Merci de l'avoir posée, quand même.
Ben là, justement, quand on réfléchit un petit peu à ces perspectives dans les travaux de recherche, on se pose la question de limiter l'afflux démographique. Donc ça, c'est une option qu'il faut considérer. Et il faut la considérer aussi d'une autre manière, c'est-à-dire se dire, eh bien, si les gens viennent, ils vont venir, mais dans d'autres conditions. On ne va pas avoir une grande pelouse avec une piscine. On va limiter la taille des parcelles. Et de manière automatique, si tous les gens habitent en immeuble, eh bien, ils auront des consommations un peu moindres. Et au final, quand on avait fait une étude là, avec des collègues du BRGM, on s'était rendu compte, par exemple, sur Montpellier, que dans les perspectives futures, on pouvait avoir la même consommation d'eau si on transformait un peu l'habitat. Donc ça peut être une option. Et après, en plus, comme ce sera une option qui serait réalisée, peut-être qu'il y aurait moins de gens qui seraient intéressés par venir dans le sud, puisqu'ils n'auraient plus de piscine et de... et voilà.
Je crois qu'on a encore une question qui va sans doute être la dernière. Je vous en prie, monsieur.
Rebonsoir. Je crois que vous n'avez pas trop répondu à ma question tout à l'heure. C'était entre... il y avait je citais Gordon tout à l'heure en disant que comment vous allez choisir entre nos nouvelles technologies et puis nos trucs vitaux, hein, comme l'eau, comme l'électricité. Et c'est ce qui fait que, par exemple, tous nos besoins vitaux vont augmenter en termes de prix. Enfin, ce sont les prévisions. Ça dépend de ce qu'on imagine sur le plan économique. Mais là, c'est ce que raconte Gordon, par exemple. On sait que les prix vont obligatoirement monter très haut, même si tous les indicateurs... Est-ce que c'est aussi
qui peut
éminemment
répondre à
politique
cette question? Est-ce que Madame Monginoul, vous êtes l'économiste, vous êtes la mieux placée pour répondre à la dernière question? Comment on va faire dans les années à venir?
Alors, je vais essayer. Hein. Ce qui se passe là, c'est se dire justement, peut-être qu'il faut un changement de mentalité dans ce que vous dites. Hein. On voit que vous parlez des biens qui sont vitaux et des biens qui sont secondaires. Dans les biens secondaires, on pourrait imaginer qu'ils sont pas si qu'ils sont secondaires, donc on les laisse tomber. Et pour les biens vitaux, si on a un partage de la ressource, on peut le faire de différentes manières. On peut soit considérer qu'on va mettre, par exemple, un prix de l'eau, hein, soit on fait ce que l'on appelle, on fait appel à ce qu'on commence à appeler des mécanismes prosociaux. C'est-à-dire que ça va pas être sur des mécanismes de prix que l'on va mettre quelque chose, mais sur d'autres mécanismes qui vont justement refléter des aspects moraux. Je vais prendre juste un exemple qui a rien à voir, qui est la crèche. Quand vous amenez un enfant à la crèche et que vous ne venez pas le chercher à l'heure, il y a eu des études qui ont été faites et on a essayé de faire payer l'heure supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils viennent chercher leur enfant à la crèche, ils ont payé l'heure supplémentaire, ils disent à la personne, eh ben, écoutez, vous êtes resté là, on vous a payé. Et le fait d'avoir payé dédommage de la culpabilité d'être venu chercher un enfant en retard. Par contre, si on n'avait pas mis en place un prix, dans ce cas-là, vous allez avoir un mécanisme de culpabilité qui va faire émerger autre chose et qui va faire que peut-être que la société, avec la pression sociale, va atteindre un autre objectif. Donc c'était là que je voulais en venir, c'est-à-dire que l'économie ne gouverne pas tout, il faut prendre aussi en compte ce que vous disiez, hein, tout ce qui est action collective, mais sur d'autres plans, pour partager la ressource.
Merci à l'IRSTEA, l'IRD et tous leurs invités. Retrouvez toutes les informations sur les apéros sciences sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com. Prochain rendez-vous pour le prochain apéro sciences, c'est le 1er mars à la Villa. Il y sera question de bien manger. Bonne journée sur les ondes de la Grenouille.